J'aimerais tout d'abord vous inviter à entendre la lecture du texte du jour qui est situé dans Éphésiens, la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, les versets 11 à 22. Éphésiens, chapitre 2, versets 11 à 22, je lis dans la version du Semeur. C'est pourquoi, vous qui portez dans votre corps la preuve que vous n'êtes pas des Juifs, et qui donc êtes traités d'incirconcis par ceux qui se disent les circoncis à cause d'un rite accompli sur leur corps et par des hommes, rappelez-vous, souvenez-vous quelle était votre situation d'autrefois. En ce temps-là, vous étiez sans Messie. Vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse. Vous étiez sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, par votre union avec le Christ, Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs. Il a abattu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns avec les autres, avec Dieu, et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à vous qui étiez proche. Car grâce à lui, nous avons accès, les uns comme les autres, auprès du Père, par le même Esprit. Et voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur et uni au Christ. Vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Seigneur, que cette parole puisse être comprise maintenant, que cette parole devienne parole de vie pour nous. Amen. Un texte dense, mais un texte central, un texte magnifique qui nous est livré ce matin et que je vais essayer de commenter avec vous dans le temps que nous avons. Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience de visiter une église que vous ne connaissiez pas, et vous sortez à la fin du culte, vous restez là quelques minutes pour voir si des personnes viendraient vous saluer, vous cherchez à avoir le contact, vous attendez, vous êtes planté là au milieu des gens, et puis personne ne vient vous saluer. Et vous repartez comme si vous aviez été un étranger au milieu de cette communauté. Peut-être avez-vous fait l'expérience inverse, celle d'arriver dans une communauté où, à la fin du culte, 2, 3, 5, 6 personnes viennent vous saluer, prennent le temps de s'intéresser à vous. Et si vous avez fait ces deux expériences, vous rendez compte dans votre chair de ce que veut dire être étranger, loin, et de ce que veut dire être accueilli. J'ai moi-même fait le constat que souvent, nous restons dans une communauté où nous nous sentons accueillis. Il est difficile d'entrer dans un groupe qui existe. Il est difficile d'intégrer des nouveaux. C'est vrai dans une église, c'est vrai dans un groupe de jeunes où on fonctionne souvent par tribu. On est bien dans sa propre tribu, mais qu'est-ce qu'il est difficile de passer d'une tribu à l'autre et qu'est-ce qu'il est encore plus difficile d'accueillir des gens dans sa tribu. Il n'est pas facile dans une église d'intégrer des gens qui sont différents, d'intégrer les différentes ethnies, les différentes cultures, les différentes origines sociales, les différences dues au handicap, et je passe d'autres différences encore. Dans ce texte, Paul réfléchit à ce que veut dire l'intégration. Il réfléchit à ce que veut dire l'Église. Il ne répond pas à un problème qui aurait cours dans l'Église ou les églises auxquelles il s'adresse. Souvent, quand Paul écrit, il cherche à corriger des erreurs. Il cherche à montrer qu'il faut s'y prendre autrement. Tel n'est pas le cas ici dans les Éphésiens. Paul écrit à ces églises qui sont jeunes, qui n'ont pas un problème particulier, qui sont des églises normales, mais il leur écrit pour leur dire « voilà ce qu'est une église, voilà à quoi doit ressembler l'église de Jésus-Christ ». Dans l'église de Jésus-Christ, dit Paul, nous devons vivre la paix, nous devons vivre la réconciliation. Une réconciliation autant sur un plan horizontal que sur un plan vertical. Dans l'Église de Jésus-Christ, il ne doit plus exister de barrières. Des barrières qui sont dues aux origines ethniques, aux origines culturelles, des barrières entre les jeunes et les personnes âgées, entre les pauvres et les bourgeois. Dans l'Église de Jésus-Christ, il n'y a qu'un peuple. L'Église est une. Il n'y a pas plusieurs peuples. Christ n'a pas plusieurs corps. Il est la tête d'un seul corps. L'Église de Jésus-Christ n'est pas baptiste, elle n'est pas mennonite, elle n'est pas assemblée de Dieu, pour reprendre des catégories que nous connaissons ici. Elle n'est pas réformée, elle n'est pas orthodoxe, elle n'est pas catholique. L'Église de Jésus-Christ n'est pas blanche, elle n'est pas noire. Ce n'est pas une église ethnique, ce n'est pas une église de jeunes. L'Église de Jésus-Christ, c'est le peuple de Dieu, formé de tous les enfants de Dieu. Et on peut se demander, avant que nous entrions dans le détail du texte, comment nous vivons cette unité? Comment nous vivons cette unité avec les autres bouts du peuple de Dieu qui sont rassemblés à Paris? Qu'est-ce que cela veut dire, de faire partie du même peuple? On peut se demander comment nous vivons l'unité en notre sein. Comment se fait l'unité entre les gens de la galerie et les gens du parterre, quand on ne se côtoie pas forcément à l'issue du culte? Comment se fait l'unité entre les gens de la gauche et les gens de la droite? Nous sommes face à un défi, celui de former un seul peuple. Le contexte dans lequel Paul écrit est un contexte très fragmenté, très divisé. Les Juifs ne fréquentaient pas les non-Juifs. Certains Juifs ont reconnu Jésus comme étant leur Messie, mais ils arrivent dans l'Église avec leur culture juive. Ils ont de la peine avec les gens qui ne sont pas de la même origine. Pour certains d'entre eux, être un bon chrétien, c'est être un bon juif. Il y avait beaucoup d'inimitié entre juifs et non-juifs. Et les juifs entretenaient une attitude hautaine, une attitude de dédain à l'égard des non-juifs. Ils les pointaient du doigt, ils pensaient que les non-juifs n'étaient pas aussi spirituels, que c'était des gens moins religieux. Il y avait une forme d'arrogance. L'arrogance de se croire déjà arrivé, d'avoir tout compris. Il y avait une forme d'orgueil spirituel. Nous sommes le peuple élu. C'est nous qui avons été choisis. C'est avec nous que Dieu a fait alliance. Nous sommes, nous, les sauvés, les circoncis. Il y avait un sentiment de supériorité. Les Juifs disaient, nous avons Dieu avec nous. La preuve, c'est que nous avons le temple. Le temple est le lieu où Dieu réside. Et il n'y a qu'un seul temple, celui de Jérusalem. Il y avait de l'arrogance, du mépris. Nous nous sommes purs, disait-il, et nous ne voulons pas nous mélanger avec les impurs. Les Juifs tenaient à marquer leur différence. Ils n'entretenaient pas de contact avec ceux qui n'étaient pas juifs. Et à ce mépris des Juifs à l'égard des païens, répondait un mépris réciproque de la part des païens à l'égard des Juifs. Ils disaient, mais vous nous traitez d'incirconcis ? Mais qui êtes-vous, vous les Juifs enfermés dans votre étroitesse d'esprit? Nous avons l'ouverture, nous avons la sagesse. Donc beaucoup d'incompréhension avec ces personnes qui viennent dans l'Église et qui amènent avec eux leur culture dans l'Église. Et Paul parle avec eux le langage de la réconciliation. La réconciliation opérée par Christ. Il montre que, en Christ, nous pouvons trouver un chemin d'unité. Il montre que l'Église ne peut être qu'une, une seule, indivisible, centrée sur l'œuvre de la croix. Alors, dans le texte que nous avons lu, nous discernons trois parties, et je vais essayer d'arriver au bout des trois parties. La première concerne les versets 11 à 13. Je vais m'attarder un moment sur ces versets. Nous voyons Paul demander aux chrétiens qui sont dans l'église d'Éphèse et aux chrétiens d'Asie mineure, des chrétiens qui sont d'origine païenne, de se souvenir d'où ils viennent. Leur histoire est importante parce qu'ils n'ont pas fait partie du peuple de Dieu auparavant. Et aujourd'hui, ils sont dans l'église. Ils n'ont pas fait partie du peuple juif, aujourd'hui ils sont rassemblés, unis avec des chrétiens qui ont tout un passé, se considérant comme le peuple de Dieu. Donc, Paul aimerait qu'ils arrivent à la reconnaissance de ce que Dieu a fait pour eux, de les avoir amenés dans le peuple de Dieu. Et Paul dit, avant, souvenez-vous, avant, vous étiez des non-juifs dans la chair. Le simple fait est déjà de dire non-juif stigmatise, met de côté. Vous n'êtes pas comme nous, vous êtes des non-juifs, vous êtes des païens. Paul rajoute, vous étiez traités d'incirconcis. Traiter quelqu'un d'incirconcis, c'est de nouveau un langage qui divise, un langage qui stigmatise, qui dévalorise l'autre. Et on voit la simple manière dont Paul utilise la manière dont on parlait des Juifs, on voit la différence qu'il y avait entre Juifs et non-Juifs. Si nous lisons par exemple le livre des Actes, nous rendons compte au travers de plusieurs histoires quel était le fossé qui pouvait exister. Souvenez-vous de Corneille, Corneille en acte 10. C'est le récit d'un officier romain, un homme qui était pieux, qui était croyant, qui faisait beaucoup d'œuvres bonnes, d'œuvres de compassion, d'œuvres de justice. Mais son problème, il n'était pas juif. Dieu un jour va lui parler. Il va lui dire, fais venir dans ta maison un certain dénommé Simon-Pierre. Et il va parler à Pierre en lui expliquant par des toiles qui descendent avec plein de nourriture, qu'il n'y a plus de différence désormais entre juifs et non-juifs, que ce ne sont pas des règles alimentaires qui démontrent la foi en Christ. Et ainsi, Pierre arrive chez Corneille, commence à prêcher, parle du pardon des péchés, et tout à coup, dans la pièce, l'Esprit-Saint descend. Il descend sur tous ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui reçoivent cette parole. Cet esprit qui descend atteste que ces gens-là deviennent enfants de Dieu, qu'ils font partie de la famille de Dieu. Et nous lisons verset 45, « Tous les croyants circoncis furent stupéfaits de voir que le don de l'Esprit Saint était aussi répandu sur les non-juifs. » Vous vous rendez compte? Ils sont stupéfaits que l'Esprit Saint puisse aussi descendre sur des gens qui ne sont pas juifs. Comment Dieu pourrait-il donner son esprit à des gens qui ne font pas partie du peuple de Dieu? Ce petit exemple, il y en aurait d'autres, montre le fossé qui pouvait exister. Les Juifs avaient un discours d'exclusion. Et Paul parle d'eux en disant « Ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par des mains humaines. » Et j'aime bien ces précisions de Paul. Pourquoi Paul doit-il préciser « qui le sont dans la chair et par des mains humaines » Paul veut dire par là que la circoncision dont se vantent les Juifs n'est qu'un rite extérieur. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont été circoncis qu'ils sont meilleurs. Ce n'est pas parce qu'ils sont circoncis qu'ils sont plus avancés spirituellement que les non-circoncis. Ils sont tout autant païens finalement que les païens, s'ils n'acceptent pas Dieu dans leur cœur. Peu importe qu'il y ait eu sur eux un rite ou non. Ils ont été circoncis par des mains d'hommes, mais ont-ils subi une transformation spirituelle par l'Esprit de Dieu? Et c'est là tout le problème des signes extérieurs. Quand on résume la foi au fait d'avoir des signes extérieurs qui témoignent de notre foi, qui témoignent de notre appartenance, nous ne faisons rien d'autre que de créer des divisions, des séparations, et nous sommes sur une forme extérieure de religiosité. Or, la foi chrétienne ne peut pas se résumer à des rites extérieurs et à des formes externes de religiosité. On peut être né dans une église évangélique, partager tous les signes extérieurs d'appartenance, et malgré tout, n'avoir pas été transformé par l'Esprit de Dieu. Ailleurs, Paul pose une question qui me paraît essentielle. En Romains 3, il dit « Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi celui des non-Juifs? Mais oui, il est aussi celui des non-Juifs, s'il est vrai qu'il y a un seul Dieu. Et c'est lui qui justifiera les circoncis en vertu de la foi et les incirconcis en vertu de la foi. » Donc on ne peut pas faire de catégories basées sur l'apparence, basées sur des rites extérieurs. Et Paul dit, vous étiez avant hors du peuple de Dieu, mais vous avez été intégrés dans le peuple de Dieu. Paul dit, vous étiez autrefois des non-juifs dans la chair, c'est-à-dire vous n'étiez pas circoncis. Vous étiez autrefois sans Christ, c'est-à-dire vous n'aviez aucune relation avec lui. Vous étiez autrefois sans droit de cité en Israël. En d'autres termes, vous ne pouviez pas faire partie du projet de Dieu. Vous étiez hors de son projet. Vous étiez autrefois étranger aux alliances de la promesse, c'est-à-dire les alliances que Dieu avait faites avec Moïse, avec David, même avec Jérémie, des alliances où le plein accomplissement se réalisait dans le Messie et par l'Esprit de Dieu. Il dit, vous étiez autrefois sans Dieu. Et sans Dieu, ça se dit athée, athée de théos, Dieu. Non pas qu'ils étaient athées au sens qu'ils n'avaient aucun Dieu, mais ils avaient tellement de Dieu, tellement de divinité, sans connaître toutefois le Dieu véritable. Et Paul dit, voilà tout ce que vous étiez autrefois. Mais maintenant en Jésus-Christ, verset 13, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Jésus. C'est-à-dire que la distance qui vous séparait de Dieu et la distance qui vous séparait du peuple de Dieu a été résorbée. Vous êtes désormais proche. Comment Dieu s'y est-il pris? Ce qu'il fallait pour enlever la distance qui séparait ces païens de Dieu et du peuple de Dieu, c'était le sacrifice de Jésus-Christ. Ce sacrifice qui accorde le pardon des péchés, peu importe que l'on ait été circoncis ou non, peu importe l'origine qui est la nôtre, peu importe que l'on soit jeune ou que l'on soit vieux, peu importe notre origine sociale, ce sacrifice qui accorde le pardon des péchés est valable pour tous. Et du coup, forme un seul peuple. Avant, pour entrer dans le peuple de Dieu, il fallait avoir des rites externes. Il fallait observer des signes d'appartenance qui pouvaient se voir. Désormais, pour entrer dans le peuple de Dieu, il faut être uni à Jésus-Christ. Je poursuis un peu en prenant les versets 14 à 18 dans notre texte. Après avoir dit que la séparation avait été abolie, que nous pouvions être un seul peuple, Paul réfléchit aux conditions qui ont permis cela. Il dit « Celui qui permet l'abolition des différences, c'est le Christ. Christ qui est notre paix. Christ par qui vient la paix. Christ qui est la condition de la paix. La paix n'existe pas en dehors du Christ, on ne peut pas parler du Christ sans parler de la paix. Et la paix n'est pas simplement l'absence de conflit. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la guerre qu'il y a la paix. La paix, c'est beaucoup plus que cela. La paix, dans le concept biblique, se réfère au shalom. Le shalom, dans la conception hébraïque, c'est une forme de bien-être relationnel avec Dieu, avec les autres. C'est un bien-être qui n'est possible que s'il y a la justice qui règne, que si la vérité règne, c'est un bien-être qui fait qu'on se sent en sécurité avec les autres. Voilà ce qu'est la paix, le shalom. Et Paul nous dit que cette paix ne peut être apportée que par Jésus, qu'au travers de Jésus. Et que nous sommes, nous, à l'exemple de Jésus-Christ, appelés à être des gens de paix. On ne peut pas imaginer être chrétien sans être des acteurs de paix. Sinon, nous sommes en contradiction avec le Christ. Être acteur de la paix ne veut pas dire rester passif. Parfois, on a l'impression qu'on défend la paix si on se tait, si on ne dit rien. Non, ce n'est pas le cas. On est acteur de paix quand on cherche à promouvoir la paix. Quand on lutte pour que cette paix puisse exister et qu'il y ait plus de justice. Pour nous montrer ce que Christ a accompli, Paul nous parle d'un mur qui séparait les juifs et les non-juifs. Un mur qui s'est retrouvé jusque dans les premières églises. Et Paul nous dit que ce mur a été abattu par le Christ. Je ne peux pas m'empêcher, tous ceux qui ont un peu plus de la vingtaine se souviennent encore du rideau de fer qui partageait le monde communiste du monde qu'on appelait libre, le monde occidental. Et si nous voulions passer de l'autre côté du rideau de fer, c'était déjà toute une procédure pour réussir à passer la frontière. Et quand nous passions la frontière, nous étions sous constante surveillance de la part des autorités du pays dans lequel nous entrions. Il y avait réellement un mur entre ces deux mondes. Ces deux mondes étaient partagés par une barrière quasi infranchissable. Et pourtant, un jour, ce rideau de fer est tombé. Une brèche a été faite, notamment dans le mur de Berlin, jusqu'à ce que le mur s'effondre. Et de même, Christ a percé la brèche. Enfin, il a même aboli le mur qui nous sépare pour que nous soyons tous unis en lui. Une autre image qui peut nous parler pour que nous comprenions ce que veut dire la réconciliation en Jésus-Christ, C'est tout simplement l'image à laquelle doit penser Paul. Dans le temple de Jérusalem, il y avait un mur qui séparait le parvis des païens du parvis des juifs. Les païens pouvaient entrer dans le temple, mais seulement dans les abords extérieurs. Pour approcher davantage du temple, il fallait être juif. Il y avait un réel mur physique à l'intérieur du temple qui empêchait les païens d'aller plus proche du lieu de la présence de Dieu. On a retrouvé une pierre sur laquelle, une pierre de ce mur, sur laquelle il y avait une inscription. Il y était écrit « Aucun étranger ne peut franchir la barrière qui entoure le temple. Celui que l'on surprendra sera responsable de la mort qu'il subira. » Eh bien, c'est ce mur-là que Christ a aboli. Christ a enlevé ce mur pour qu'il y ait une véritable unité entre juifs et non-juifs, pour faire un peuple nouveau. Comment l'a-t-il fait ? Il a livré son corps à la mort pour annuler les effets de ce qui faisait des juifs et des non-juifs des ennemis. Et qu'est-ce qui faisait d'eux des ennemis ? Paul dit que c'est la loi. La loi de Moïse, dans ses commandements et ses règles, créait une différence. Pourquoi ? Parce que la loi amenait les circoncis à voir les non-circoncis différemment. Il y avait deux groupes. Ceux qui respectaient par exemple le sabbat, ceux qui ne le respectaient pas. Ceux qui observaient les règles de pureté liées à la nourriture et ceux qui ne les observaient pas. Or, Paul nous explique qu'avec la venue du Christ, ces règles-là ont été abolies. La circoncision, le sabbat, les règles liées à la nourriture ne sont plus des conditions pour entrer dans le peuple de Dieu. Toutes ces lois cérémonielles ont été abolies par Christ. La loi existe toujours, mais la circoncision désormais a une valeur spirituelle. Le sabbat a une valeur spirituelle. S'il a encore un sens, c'est comme un principe de vie et non pas comme un moyen de salut. Les chrétiens ne sont plus obligés de se conformer à des lois qui touchent à la nourriture, à ce que j'ai le droit de manger ou de ne pas manger. Parce que Jésus a dit que ce n'est pas ce qui entre dans le corps de l'homme qui le souille, mais ce qui en sort. Donc vous voyez qu'il y a un changement radical avec la venue de Jésus-Christ. Ce n'est plus ces rites extérieurs qui nous font entrer dans le peuple de Dieu, mais c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Jésus est venu pour que la loi soit intériorisée, pour qu'il devienne en quelque sorte naturel d'obéir à la loi. La loi qui avant séparait les hommes est une loi désormais qui est dans le cœur de tous ceux qui suivent le Christ. Elle ne crée plus de différence. Elle ne se voit plus au travers de rites extérieurs. Elle est intériorisée dans le cœur des croyants. Qu'est-ce que cela a à nous dire pour nous aujourd'hui ? En quoi ce texte me concerne-t-il ? On pourrait dire, mais nous ne sommes plus dans cette situation d'avoir des différences entre juifs et non-juifs. Eh bien, je dirais que si les juifs avaient un statut particulier en ayant été reconnus comme le peuple de Dieu et que cela conduit à ces divisions, l'Église aussi a joui de privilèges. Et parfois n'a pas mieux agi qu'Israël dans son histoire. L'Église chrétienne aussi a traversé des conflits entre catholiques et protestants, entre catholiques et orthodoxes, entre protestants et évangéliques, entre évangéliques et autres évangéliques. Il y a eu parfois des barrières qui ont été élevées, tellement haut qu'elles ont amené des guerres de religion, qu'elles ont amené des scissions d'Église qui ont parfois été douloureuses. Et pourquoi cela ? Parce que souvent nos pratiques ont été des pratiques humaines, comme la circoncision faite de main d'homme. Et lorsqu'on y regarde de plus près, on retrouve dans ces divisions généralement les mêmes ingrédients que ceux qui nourrissaient l'hostilité entre juifs et non-juifs. Quels sont ces ingrédients ? Un sentiment de supériorité, de l'orgueil spirituel, du mépris, de l'arrogance. Et ces attitudes provoquent généralement des luttes de pouvoir, des conflits d'intérêts, des dynamiques destructrices, séparatrices. Quand j'ai effectué mon service militaire à l'âge de 20 ans, j'étais dans une troupe où on devait être les meilleurs. Et il fallait toujours pouvoir être une section qui était meilleure que l'autre section. Et il est encore mieux de pouvoir être arrogant à l'égard des autres et les disqualifier. On nous enseignait des pratiques, finalement, destructrices. Il fallait être supérieur. Dans les écoles, dans les lycées, dans certaines hautes écoles en France, on nous apprend également à nous montrer supérieurs. Et notre société pousse à la division. Ce n'est pas un effet nouveau. Je vous parlais de l'armée avant, Goliath ridiculisait l'armée adverse. Souvent, on a besoin de se légitimer en écrasant l'autre. Et cela laisse des traces jusqu'au sein de l'Église. Et pourtant, nous voyons que l'Évangile nous apprend à vivre ensemble. Ce qui pourrait nous séparer, nous distinguer, Christ est venu l'abolir. Il est venu instaurer l'unité entre tous ceux qui confessent lui appartenir. Il est venu apporter la réconciliation. Pas seulement la réconciliation avec Dieu, comme nous avons trop souvent tendance à le penser, mais aussi la réconciliation les uns avec les autres. Et Christ dit pas non plus « Christ est ma paix », il n'est pas dans une logique individualiste. Il dit « Christ est notre paix ». Il pense en termes de groupe, il pense en termes de catégorie. C'est quoi la réconciliation ? C'est une démarche qui va plus loin que le pardon. Elle vise à restaurer des relations qui ont été brisées. Et Christ a voulu que dans son Église, les chrétiens d'origine juive et ceux d'origine païenne puissent vivre ensemble, écouter la parole de Dieu ensemble, louer le Seigneur ensemble, œuvrer ensemble dans le ministère. Et que Dieu veut-il pour nous aujourd'hui ? La même chose. Il veut que les jeunes puissent louer Dieu avec les aînés. Il veut que les chrétiens de toutes conditions sociales puissent servir Dieu ensemble. Il ne veut pas de ségrégation raciale, pas de nationalisme, pas de tribalisme, pas de dénomination chrétienne qui s'élève contre les autres dénominations, pas d'animosité personnelle, pas de préjugés, pas de jalousie, pas de refus de pardonner. Il ne veut pas que nous collions des étiquettes sur les autres. Des étiquettes qui amènent toujours à dévaloriser et à diminuer les autres. Il ne veut pas cette attitude hautaine qui consiste à croire que nous sommes plus saints que l'autre, que nous sommes plus spirituels que l'autre. Ces attitudes-là offensent Jésus-Christ. Elles consistent à remettre des murs qui séparent. Elles consistent à détruire la communauté que Dieu a établie. John Stott, ce qu'on appelle parfois Monsieur Évangélique, qui est décédé maintenant il y a quelques années, disait « Il est grave de perpétuer ces barrières dans l'Église, et même simplement de les tolérer. Nous devons tout faire pour les détruire. Tout faire parce que nous sommes désormais un en Christ. Que Christ, des deux, a fait qu'un seul. Il a fait un seul homme nouveau, une seule création nouvelle. Il a détruit ce qui divisait. Il a accompli la paix. Il est venu annoncer la paix pour tous. Pour ceux qui sont différents, pour ceux qui sont étrangers, pour ceux qui ne sont pas comme nous, comme pour nous. Nous avons tous besoin de cette paix. Dieu nous a donné accès au Père. par le même esprit. Le temps passe, et je vais m'arrêter là sans commenter les trois derniers versets. Mais je dirais simplement en guise de conclusion que les trois derniers versets nous montrent que dans la communauté, cette communauté qui est formée de gens qui connaissent, qui sont du sérail, qui ont toujours été là, Dieu veut que nous puissions accueillir les étrangers. Il dit « Vous n'êtes plus des étrangers ». Dieu veut que nous puissions accueillir les exilés. Vous n'êtes plus des exilés. Dieu dit « Vous êtes bienvenus dans le peuple de Dieu. Vous êtes admis comme citoyens de ce royaume. » Que nous puissions, par la grâce de Dieu, vivre l'unité et vivre l'accueil, vivre la paix, vivre la réconciliation en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Amen.